VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Une première à l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a nommé un diplomate chinois pour succéder à l'Algérien Saïd Djinnit, son émissaire spécial dans la région des Grands Lacs. Anne Alberson.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé hier un ambassadeur chinois, Wang Xia, comme son nouvel émissaire dans la région des Grands Lacs. Une première pour Pékin qui illustre son rôle croissant au sein des Nations Unies. Il succédera à l'Algérien Saïd Djinnit, qui a achevé plus de 4 ans de mission. Très impliqué diplomatiquement et économiquement en Afrique, la Chine est devenue récemment le deuxième contributeur financier à l'ONU, après les États-Unis, une place occupée jusqu'alors par le Japon. La part chinoise atteint aujourd'hui 12% du budget de fonctionnement de l'ONU et 15% de celui des opérations de paix. Membre permanent du Conseil de sécurité, doté d'un droit de veto, Pékin est aussi un grand fournisseur de troupes à ses missions de paix onusiennes, avec plus de 2500 casques bleus chinois déployés notamment au Mali, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et au Liban.
3 jeunes gens d'origine africaine ont été arrêtés ici aux États-Unis. Ils sont accusés de soutenir le terrorisme. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
3 Américains d'origine kényane ont été inculpés de conspiration en vue de soutenir le groupe État islamique après avoir été arrêtés dans un aéroport du Michigan ici aux États-Unis selon un document judiciaire déposé mardi devant un tribunal fédéral. Les 3 hommes, tous âgés d'une 20aine d'années et appartenant à la même famille, sont accusés d'avoir enregistré des vidéos dans lesquels il prêtait allégeance à l'organisation djihadiste et évoquait une possible attaque aux États-Unis si l'un d'entre eux était empêché de voyager pour rejoindre cette organisation. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, a précisé le ministère américain de la Justice.
Le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, organisation basée aux États-Unis, a dénoncé une tentative désespérée des autorités soudanaises de museler la presse en cette période de troubles avec la révocation des accréditations des journalistes internationaux. Dans un communiqué mardi, le CPJ a affirmé avoir connaissance d'au moins 6 cas de retrait d'accréditation, dont 3 concernant la chaîne de télévision du Qatar, Al Jazeera. Le président soudanais Omar El-Béchir est arrivé hier soir au Qatar et Chérif Mansour, coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du CPJ, a trouvé particulièrement ironique que des journalistes d'Al Jazeera se voient refuser le droit de couvrir les événements au Soudan à ce moment précis. Au Niger, le gouvernement a décidé de retourner dans le processus ITE dont il s'était retiré il y a un peu plus d'un an. Selon notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, c'est le premier ministre lui-même, Brigitte Rafini, qui a annoncé cette décision mardi en marge d'un forum sur les enjeux et défis du secteur des industries extractives au Niger.
J'annonce solennellement la décision du gouvernement du Niger de reprendre sa place au sein de l'ITE international.
C'est en fin de l'année 2017 que les autorités mécontentes de la décision de suspension prononcée à l'encontre du pays par le conseil d'administration de l'ITE décident de retirer le Niger de ce processus qui est une norme internationale visant à assurer une meilleure transparence dans la gouvernance des industries extractives. Plus d'une année après, elle se ravise à la grande satisfaction des organisations de la société civile actives dans le secteur des industries extractives. Ali Idrissa, coordonnateur du réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire routable.
Pour nous, ce n'est peut-être qu'une satisfaction morale de voir que le gouvernement nigérien a effectivement compris qu'il faut travailler dans ce processus et a souhaité réadhérer au processus. Nos attentes, c'est le travail. Ce n'est pas aujourd'hui par cette déclaration que le Niger est membre de l'ITU. Il y a tout un processus à mettre en œuvre.
Le processus, le Niger l'a déjà entamé, selon le Premier ministre Brigitte Rafini.
Le gouvernement a immédiatement entrepris la réforme du secrétariat permanent, ayant abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif qui sera doté d'un personnel compétent et en nombre suffisant, et d'un groupe multipartite de concertation où les différents acteurs, à savoir l'État, les industries extractives et la société civile, joueront un rôle majeur dans la mise en œuvre de la norme ITE dans notre pays. Le nouveau dispositif institutionnel mettra également en place un plan de communication dynamique qui permettra notamment de diffuser le plus largement possible le rapport ITE.
Le conseil d'administration de l'ITE se réjouit de cette décision des autorités nigériennes selon son secrétaire exécutif adjoint Edmund Rich.
L'ITE se réjouit d'accueillir le Niger dès que possible dans la famille ITE. Le Niger est un pays important dans la famille ITE et nous espérons que l'ITE sera important pour le Niger. L'année 2019 est une bonne année pour cette réintégration du Niger puisque l'ITE va organiser sa grande conférence mondiale à Paris au mois de juin. Et nous espérons que le Niger pourra officiellement revenir dans la famille ITE à cette occasion de cette grande conférence internationale.
Le Niger est l'un des grands producteurs d'uranium au monde. Il produit également de l'or et du pétrole. Depuis 2007 qu'il a adhéré à l'ITE, c'est seulement en 2011 qu'il a été jugé conforme à cette norme. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa tente de tourner la page de la fronde meurtrière contre la hausse des prix du pétrole. Il a lancé un appel au dialogue. L'opposition l'a aussitôt refusé en exigeant la fin de la répression. John Lindon nous en dit plus.
À peine rentré à Harare hier, Emmerson Mnangagwa a invité les chefs des partis politiques et les responsables religieux et de la société civile à engager un dialogue national avec son gouvernement. Faisons de l'économie notre priorité, faisons de la population notre priorité, a-t-il lancé en promettant de sanctionner les dérapages de ses forces de l'ordre. Sa main tendue a été immédiatement refusée par le chef de l'opposition. Nelson Chamisa, le président du mouvement pour un changement démocratique, a laissé entendre sur Twitter que pour dialoguer, il faut être libre de parler. Or, a-t-il poursuivi, les voix de la nation sont aujourd'hui bâillonnées par la prison ou par la peur. Dans un rapport publié hier, la Commission zimbabwéenne des droits de l'homme, nommée par les autorités, a accusé l'armée et la police de torture systématique. Le Zimbabwe a été secoué toute la semaine par de violentes manifestations contre la hausse de 150% des prix de carburant dans un pays étranglé par deux décennies de crise économique.
Ici aux États-Unis, le Sénat américain va tenter demain jeudi de s'accorder sur un texte mettant fin au shutdown, la fermeture partielle de l'administration fédérale, faute de financement du Congrès. La proposition républicaine qui assure un financement du gouvernement jusqu'en septembre inclut l'enveloppe pour le mur réclamée par le président américain ainsi qu'une concession accordée samedi par M. Trump, un sursis de 3 ans pour 1 million d'immigrants directement menacés d'expulsion. Le texte démocrate n'évoque pas le budget pour le mur et propose la réouverture des administrations jusqu'au 8 février pour relancer le débat sur la sécurité aux frontières.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan discutent aujourd'hui de la Syrie à Moscou. Les deux chefs d'État sont dans des camps opposés. La Russie soutient militairement le régime de Damas, tandis que la Turquie aide des groupes rebelles qui veulent renverser le président Bachar al-Assad. Malgré leurs différences, les deux pays disent chercher ensemble une solution politique à un conflit qui dure depuis plus de 7 ans. Ils ont convenu de coordonner leurs opération sur le terrain après l'annonce brutale par le président américain Donald Trump en décembre du retrait de ses 2000 soldats engagés en Syrie. Le gouvernement et l'opposition vont mesurer leurs forces aujourd'hui dans les rues du Venezuela où des manifestations pro- et anti-gouvernementales sont organisées dans un climat très tendu 2 jours après un soulèvement militaire réprimé. Les opposants au président socialiste Nicolas Maduro sont appelés à se mobiliser notamment pour réclamer l'installation d'un gouvernement de transition en vue de l'organisation de nouvelles élections. Ces mobilisations sont organisées dans un climat explosif 2 jours après le bref soulèvement d'un groupe de 27 militaires qui se sont retranchés quelques heures dans une caserne du nord de Caracas en lançant des appels à l'insurrection. On termine avec du sport et du football. L'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football, a suspendu le Bénin pour 2 ans de toutes ses compétitions après son forfait au tournoi des moins de 20 ans. C'était l'année dernière. Le Bénin écope aussi d'une amende de 29 millions de francs CFA. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos, c'est dans 50 minutes. Vous aurez affaire à Henri Francis, comme toujours. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.